le message aujourd'hui. Serez-vous laissé derrière? Tiré de Matthieu 24, les versets 36 à 42, que je vais lire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera quand même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne s'occupèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. En sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui voudront à la nouvelle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
Merci, Sylvain, pour la lecture du texte. Ce matin, le titre du message, c'est « Serez-vous laissé derrière? » Et le Seigneur, au verset 42 du passage que Sylvain vient de lire, nous dit de veiller parce qu'on ne sait pas à quelle heure notre Seigneur va venir. Serez-vous laissé ou enlevé? Plusieurs journaux que je lis, les magazines, ont quelque chose qui les relie à la prophétie de la Bible sur la fin du monde, telle que nous l'enseignons. Et voici des titres qui font souvent la manchette dans les journaux. Exemple, les ponts et les systèmes routiers à travers le monde entier sont en mauvais état. Ensuite de cela, on a ce qu'on appelle le déficit de médicaments qui frappe nos hôpitaux. La fonte des glaces, le réchauffement de la planète, vous avez tous entendu parler de cela. Les tremblements de terre, les tornades, les attentats à la bombe. Souvent, ces sujets-là font, autrement dit, la manchette. Et je crois fermement que ce sont des signes que Dieu nous donne afin de nous montrer le peu de temps que nous avons devant nous avant que l'enlèvement arrive. Tout cela peut nous sembler comme des événements douteux, en tout cas pas pour un chrétien, mais pour plusieurs personnes. Ça va-t-il arriver? La fin du monde, c'est pas vrai. Mais ceux qui connaissent la Bible, ceux qui connaissent les prophéties, se rendre compte que les signes que nous vivons maintenant, dans les derniers jours, sont des signes, justement, que la fin approche. On n'est qu'au tout début. Mais tout de même, on peut voir qu'il y a des choses qui s'en viennent. L'enlèvement, ou la fin des temps, tel que nous le connaissons, semble très proche. Très proche pour ceux qui connaissent les prophéties bibliques. Jésus a dit, veillez! C'est pas pour rien qu'il dit ça, là. Veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Et dans le passage suivant, Jésus va mettre en garde, contre le fait de préciser une date. Regardez au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et dans Actes 1-7, on peut lire aussi, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On aimerait ça le savoir. Mais est-ce qu'on serait plus prêt? J'en doute. Jésus nous a dit d'observer ces signes-là parce que la fin approche. Et je crois sincèrement qu'on est entré dans ces temps-là aujourd'hui. La Bible, les signes nous enseignent cela. La Bible enseigne également que Christ va venir dans les airs, c'est-à-dire qu'il ne touchera pas à terre, mais il va venir dans les airs. Et tous les vivants et les morts qui sont vraiment chrétiens, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont vivants, vraiment des chrétiens convertis, vont être enlevés et iront à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Oh, j'ai hâte, si ça peut arriver de notre temps. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, on peut lire, Paul parle aux Thessaloniciens, ces gens-là, ils ont tellement hâte que le Seigneur revienne qu'ils ont tout arrêté de faire. Ils ont arrêté de travailler, ils sont assis, puis ils attendent. C'est pas ça que le Seigneur veut. Et Paul leur dit, c'est car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc, nos proches qui sont décédés et qui étaient des croyants, on n'a pas à s'inquiéter pour eux parce qu'eux aussi vont ressusciter. Et au verset 15, on lit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, ceux qui vont être vivants à ce moment-là, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Et au verset 16, 17, 18, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et là, Paul leur dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » On a-tu besoin d'être consolé aujourd'hui? Les temps ne sont pas faciles. Et ensemble, l'Église, on a besoin de se consoler. On a besoin d'être attentionnés l'un pour l'autre. Sans ça, l'Église n'a aucun sens. Ceux qui ne croient pas en la Bible, souvent se moquent de la parole de Dieu. Ils rient et disent que cela n'arrivera jamais. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Et un jour, très bientôt, l'enlèvement va arriver. Et les non-sauvés, ceux qui ne se sont pas convertis, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, seront laissés derrière. C'est grave. Parce que si on lit ce qui va se passer pendant les tribulations, il n'y a pas une personne au monde qui désire, même à son pire ennemi, qu'il aille dans cette période de temps. Et ce matin, on va réfléchir brièvement sur trois choses qui ont à voir avec l'enlèvement. Mais avant, on va juste rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te louer, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole merveilleuse. Te rendre grâce aussi parce qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité. On a besoin de comprendre ça. On a besoin de réaliser ça dans nos cœurs, que l'éternité avec toi est proche. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin. Et s'il y aurait des gens ici ce matin qui ne te connaissent pas, eh bien, qu'ils puissent s'abandonner à toi. Qu'ils puissent croire que tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, que tu as tant aimé toutes sortes de monde, que tu as envoyé ce qu'il y avait de meilleur, le seul qui pouvait prendre notre place, parce que nous sommes des pécheurs. Il lui avait aucune tâche, aucun péché. Alors, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs ce matin. Par Jésus, on te prie. Amen. Le premier point que je veux discuter avec vous, c'est les conditions avant l'enlèvement. La Bible nous explique exactement ce que sera le monde juste avant l'enlèvement. Jésus a dit ceci. Et pour ceux qui suivent dans leur Bible, c'est dans Matthieu 24, versets 37 et 39. « Ainsi qu'il en a été lorsque du temps de Noé, ainsi il en sera de la venue du Fils de l'homme également. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne réalisèrent rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 37 et 39. Noé, c'était un homme qu'on a appelé un prédicateur juste de la parole de Dieu. 2 Pierre 2, 5 dit ceci, « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Noé avait une certaine conscience que le jugement allait venir. Il avait été averti par Dieu. Et là, il s'est mis à évangéliser, si on peut appeler ça de même, et a averti sa génération que la fin arrivait, que la terre était pour être détruite. Il les a tous invités à embarquer dans l'arche. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ri de lui. Ils se sont moqués du message de Noé. Ils n'ont rien écouté. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont directement retournés à leur vie de matérialiste, une vie de pécheur. C'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui. On invite des gens à l'église, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est des amis, c'est peut-être de la parenté. Ils écoutent le sermon. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils retournent à leur vieille manière de vivre. Aucune repentance. On ne fait pas confiance au Seigneur. On a plus confiance dans notre compte de banque. On a plus confiance dans les choses matérielles. Quand on leur téléphone pour prendre des nouvelles, ils ont toutes sortes d'excuses pour ne plus revenir à l'Église. Ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Profiter de la vie. Prendre les choses tandis qu'elles passent. Pour employer l'expression de Dr. Tozer, un excellent écrivain de livres chrétiens, ces gens-là pensent que le monde, c'est une cour de récréation au lieu d'un champ de bataille. On est en récréation. Pense que la vie, c'est comme une sorte de Disneyland. Pense que le but entier de leur vie est de s'amuser. Et ils refusent de faire du temps pour passer quelques heures avec Dieu dans l'église, dans la prière, dans la lecture de la parole. Et quand arrive la moindre petite chose, la moindre petite excuse dans leur agenda, ils profitent pour ne pas venir à l'Église. Ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas convertis. Ce n'est pas des vrais chrétiens, malheureusement. Quand la mort viendra, ils chercheront quoi faire. Pour ainsi dire, ils ne seront pas prêts. Quand l'enlèvement viendra, ils seront laissés derrière. Hein, l'expression anglaise « left behind ». Et comme un vieux cantique le dit si bien, « Le Fils est venu et vous avez été laissés derrière. » Jésus dit « Veillez ». Car vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Deuxièmement, le deuxième point, c'est penser au danger de ne pas être préparé pour l'enlèvement. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu 25. Par contre, j'ai sur le PowerPoint, mais c'est bon d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. On est dans la parabole des 10 vierges. Et certains prédicateurs, il y a plusieurs années passées, disaient que les vierges dont on parle dans ce passage-là se réfèrent à des personnes qui n'étaient pas préparées à rencontrer Christ. Les 10, là. Et moi, j'ai une opinion contraire. Il y en avait 5 au moins qui étaient prêtes. Et voilà pourquoi. Dans le passage, Jésus raconte une parabole. Une parabole, c'est une histoire qui illustre une grande vérité spirituelle. Quelle est cette grande vérité-là dont Jésus parle? Eh bien, Jésus dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure que le Seigneur revient. » Au verset 13. Donc, le passage est un avertissement. L'avertissement vient du Seigneur. C'est sérieux. 5 de ces vierges étaient préparées. Hein, ils avaient amené de l'huile dans leur lampe pour attendre l'époux. Elles étaient prêtes pour la venue de Christ. Mais les 5 autres n'étaient pas prêtes pour son retour. Et ce qui est dangereux ici, c'est d'entrer trop en détail pour comprendre une parabole. Il faut la comprendre. Mais le simple message, il n'est pas compliqué le message ici, du passage est ceci. Beaucoup de gens ne seront pas prêts quand Jésus reviendra dans les airs pour venir chercher les vrais chrétiens. C'est ça que ça veut dire et pas d'autre chose. Alors, regardez maintenant avec moi le verset 10 de Matthieu 25. Matthieu 25, verset 10, je vais juste m'asseoir parce que j'ai fait mon maximum. Matthieu 25, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Ces vierges-là, elles partirent. Et ils sont allés chez le marchand parce qu'il manquait d'huile. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui est arrivé? L'époux est arrivé, le marié est arrivé. Et celles qui étaient prêtes, les 5 qui étaient prêtes, elles sont entrées avec lui dans la salle de noces. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On ferme la porte. La porte a été fermée. Après que les vrais chrétiens seront enlevés, la porte sera fermée, tout comme la porte de l'arche de Noé a été fermée. Plus personne ne pourra entrer. Personne. C'est sérieux. L'enlèvement arrive. les morts en Christ se ressuscitent. Les chrétiens sur la terre sont enlevés. La porte est fermée. Regardez maintenant le verset 11. Après sont venus également les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais Christ leur a répondu, « en vérité, je ne vous connais pas. » Oh, que c'est une réponse que je ne voudrais pas entendre. « Je ne vous connais pas! » Et au verset 13, Jésus fait cette demande, « Veillez donc! » Je pense que je vais le dire peut-être 20 fois dans le message, là. « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme revient. » Frères et sœurs, on ne connaît pas le temps, les temps, le jour, ni l'heure, ou lorsque le Seigneur va revenir. Et je vous encourage aussi à ne pas croire en ceux qui disent connaître la période, le jour et l'heure. C'est des faux prophètes. Ils se sont trompés jusqu'à maintenant et ils se tromperont toujours. Parce qu'on l'a lu tantôt dans Actes et dans Matthieu aussi, qu'il y a juste le Père qui sait. Et quand ce jour et cette heure viendront, savez-vous quoi? Il va être trop tard pour toi qui ne connais pas le Seigneur. Le Fils est venu et tu as été laissé derrière. Et le troisième point est ceci. Ceux qui seront laissés derrière lors de l'enlèvement seront complètement abandonnés par Dieu. Et je vais vous expliquer. Ces gens-là vont être éprouvés et seront incapables d'être sauvés. On va aller dans Apocalypse, si vous voulez prendre vos Bibles, parce que là, je ne l'ai pas au tableau. On va aller dans Apocalypse au chapitre 16. Dans ce passage-là, on apprend qu'après l'enlèvement, la colère de Dieu sera déversée sur ce monde qui a rejeté Christ. On va entrer dans cette période qu'on appelle les tribulations. Et regardez bien le verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, premièrement, il va y avoir des blessures douloureuses. Allons au verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Ce verset-là nous apprend que l'approvisionnement en eau dans le monde entier sera dangereux parce que l'eau va être empoisonnée. Du moins dans une partie du monde. Je pense qu'il y a un tiers. Au verset 8, le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Ça va pas de mieux en mieux, hein? L'humanité sera brûlée par le feu. Verset 10, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ça parle. Grande ténèbre, grande noirceur. Se mordre la langue de douleur. Allez-vous faire mal, hein? Verset 18. Allez au verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. On a des tremblements de terre présentement, mais laissez-moi vous dire que ça va être différent dans cette période de temps-là. Des grands séismes, ça va être comme on n'a jamais vu. Bien, nous, les sauvés, on va voir ça d'en haut, du moins, je crois. Et finalement, le verset 21. Verset 21, il parle de grêle, une grande grêle, les météorites qui tombent sur la terre. Hein? Et une grosse grêle dont les grêlons, c'est-à-dire, pesaient un talent. Je ne sais pas comment ça pesait un talent, mais ça a dû être pas mal pesant. Tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu. Il n'y a personne qui se repent, là, hein? Les gens, dans cette période de temps-là, vont-ils se tourner vers Christ quand cela va arriver? J'ose espérer qu'il va y en avoir. Ça va être extrêmement difficile. Mais la réponse que je dois vous dire ce matin, c'est que une grande majorité ne se tourneront pas vers Christ. On est dans une période de jugement. Regardez la fin du verset 9 dans Apocalypse 16. Ils ne se sont repentis de ne pas lui donner gloire. Aucune repentance. Verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur plaie, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Aucune repentance. La fin du verset 21, comme on vient de lire. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de grêle, car la plaie était extrêmement grande. Aucune repentance. Ils ont blasphémé Dieu. La réalité, c'est que ceux restés derrière auront été abandonnés de Dieu. Il sera trop tard pour eux, pour le salut. Ils vont avoir commis le péché impardonnable, c'est-à-dire de refuser de croire en Dieu. Maintenant, regardez ce que Romains nous dit. Romains 1, 24. Dieu les a abandonnés. Romains 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés. Encore une fois, quand on répète les mêmes mots, ça veut dire que c'est sérieux. Là. Et 1, 28. Dieu les a abandonnés à une intelligence dépravée. Le Fils est venu et ils ont été laissés derrière. Mon frère, pas mon frère, mais mon ami, si tu veux être enlevé, si tu veux être sauvé, tu dois premièrement recevoir Christ dans ta vie par la foi. Maintenant, pendant que Dieu est encore en train de te parler, fie-toi pas à ce que, ouais, ben, si l'enlèvement a lieu, je vais avoir encore du temps pour me convertir. peut-être que tu prendras pas ce temps-là pour te convertir, pour te repentir, tu vas blasphémer Dieu à la place parce que ça fait mal. Puis si tu attends trop longtemps pour te convertir, il sera éternellement trop tard. Il y a de cela quelques années, hein, l'ouragan Florence a frappé la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Les gens ont été avertis de quitter leur maison. Le président des États-Unis même a averti les gens de quitter la maison. Le gouverneur les a avertis. La police, les pompiers sont passés dans les rues pour avertir les gens avec des haut-parleurs qu'il fallait qu'ils quittent leur maison. Donc, les gens n'avaient pas d'excuses. Ils ont été avertis de quitter leur foyer à plusieurs reprises. Mais savez-vous, il y a quelques personnes de sang, on appelle ça des sans-bon-sens, ils ont resté eux autres. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont noyés. Ils se sont noyés dans les inondations. Il y a quelques semaines passées, ou un mois passé, il y a eu une tornade à Gatineau. Dans nos téléphones cellulaires, à la télévision, il y avait un avertissement de tornade. Au lieu de se préparer au cas où, on était tanné d'entendre cette alarme-là, puis on essayait de la fermer le plus vite possible pour ne pas l'entendre. Mais pour les gens de Gatineau, dans le secteur Mont-Bleu, ça n'a pas été. C'était vrai, là, ça l'arrivait. Et la même chose que les musulmans. Tu es averti que le Christ va revenir. Si tu n'écoutes pas, tu vas être laissé derrière. Si tu attends trop longtemps, ce sera éternellement trop tard. Christ est mort sur la croix pour payer le prix de tes péchés, de tous tes péchés, peu importe comment ils sont. Jésus est ressuscité des morts, le premier. Et maintenant, le Seigneur Jésus est élevé à la droite du Père, au plus haut des cieux. Il faut que tu croies en lui. Il faut que tu croies en lui. Maintenant, dis pas, deux ans passés, j'ai cru, puis j'ai même été baptisé. Non! Vis-tu comme un disciple de Christ? Sinon, tu vas être laissé derrière. Faut que tu croies maintenant. Et le sang de Christ va couvrir tous tes péchés, puis tu vas être prêt pour l'enlèvement. Si tu attends, ce qu'on va dire de toi, c'est que le Fils est venu, puis tu as été laissé derrière. Au tableau, vous allez avoir les paroles de ce chant-là, de ce titre de chant-là que je vous répète tout à l'heure. Je vais juste les lire avec vous. Je ne sais pas si un jour on pourrait le trouver. Je vais lire le titre en anglais, mais il faudra aller voir. C'est un cantique des connaissants. Regardez bien ça, écoutez ça. La vie était remplie d'horreur et de consternation, et chacun était piétiné à terre. Je souhaiterais que nous ayons tous été prêts. Les enfants morts, les jours d'une horreur mortelle, d'une froideur mortelle, c'est-à-dire un morceau de pain pour un sac d'or,
je souhaiterais que nous ayons tous été prêts. Il n'y a plus de temps pour changer d'avis. Comment pourriez-vous avoir été si aveugle? Le Sauveur a appelé, mais vous avez refusé. Le Fils est venu et vous avez été laissé derrière. Vous avez été laissé derrière. Vous avez été laissé derrière. Hommes et femmes, tous deux endormis dans le lit. Elle entend un bruit et tourne la tête. Il s'en est allé. Je souhaiterais que nous ayons tous été prêts. Deux hommes sont montés en haut d'une colline. L'un disparaît et l'autre est toujours là. Je souhaiterais que nous ayons tous été prêts. Plus le temps de changer de vie. Comment pourriez-vous avoir été si aveugle? Le Sauveur a appelé, mais vous avez refusé. Le Fils est venu. Et vous avez été laissé derrière. Vous avez été laissé derrière. Vous avez été laissé derrière. Le titre du chant anglais, c'est « I wish we'd all been ready ». Je souhaiterais que nous ayons tous été prêts. Le titre, l'auteur, c'est Larry Norman, qui a vécu de 1947 à 2000. Ce matin, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Tous ceux qui, même s'ils ont été baptisés, même s'ils ont été, ils ont suivi des cours, même s'ils viennent à l'église tous les dimanches, mais qui ne vivent pas la vie d'un chrétien. Devant Dieu qui nous entend. Ne soyez pas laissés derrière. Mais faites confiance à Jésus et soyez sauvés dès ce matin. Mon Dieu. Ce matin, si dans ton cœur, tu te dis, ben, il faut que j'arrête de m'en faire à gloire parce que ma vie chrétienne n'est pas selon ce que la parole dit. Je ne lis jamais la Bible. Je ne prie pas. Oh, j'ai des choses à faire dans l'Église, mais je ne fais pas pour le Seigneur. Ou... Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Fais-lui confiance. Accepte-le. Reçois-le comme ton sauveur personnel, comme le Seigneur de ta vie. Comme Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui le voit, c'est lui qui dirige. Tu ne veux pas être laissé derrière parce que tu ne veux pas souffrir dans les grandes tribulations. Tu ne veux pas mourir. Puis admettons que tu sois sauvé dans les tribulations. Quelle souffrance. Ce serait au bout de ta vie. Père, tu connais tous les cœurs de toutes les personnes ici ce matin. Tu connais les cœurs de toutes les personnes qui vont écouter le message de ce matin. Sauve-les. Sauve-les. Sans Jésus, mon Père. Père Céleste. Nous avons vraiment merci, Seigneur Dieu, ta présence dans nos vies, Seigneur. Tu vis en nous, Seigneur Dieu, par ton esprit. Tu nous as scellés de ton esprit, Seigneur Dieu. Ton esprit, Seigneur, qui nous encourage à lire ta parole et à comprendre, à mettre à lire ta parole, Seigneur Dieu, et à mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te prions aussi de bénir ces offrandes qui savent répandre ton amour au cœur de nous. Nous te prions ces choses au nom de ton Père, ce Fils, et pour sa gloire. Amen.
Amen.